Donc, Michel Agier, ben, je vais te laisser te présenter et peut-être expliquer ce que tu es venu faire à Calais.
Donc Michel Agier, je suis anthropologue, je travaille depuis de nombreuses années sur la question des migrants, des migrations internationales, des migrations dites clandestines, des réfugiés, des déplacés, donc un petit peu toutes les populations en mouvement. Puis là, j'ai eu l'occasion, parce que on m'a invité à venir voir un peu de plus près ce qui se passait à Calais. J'ai eu l'occasion de venir voir un petit peu des personnes du monde associatif, et puis de voir le campement. Alors j'ai remarqué que pour l'instant ça n'avait pas de nom encore. C'est un campement, c'est un bidonville, c'est le bidonville d'État, le bidonville Cazeneuve, un camp, on emploie le terme, ou un ghetto. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de se construire très rapidement. Et bon ben voilà, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait, quoi.
Et quelles sont tes impressions, tes réflexions justement après ta visite?
Ben, sachant que c'est un lieu qui a été établi bon, sous le contrôle, on peut dire, de l'administration du gouvernement, enfin, ou en tout cas de l'administration préfectorale et municipale, il y a moins de 2 mois, je crois. Je trouve que la croissance est impressionnante. Et déjà des éléments de fixation. Hein, qui font penser, qui font penser à quelque chose qui pourrait bien devenir, et c'est mon hypothèse et ma crainte, qui pourrait bien devenir effectivement quelque chose comme un camp de réfugiés, voilà, en France. Alors les discussions que j'ai eues, les échanges que j'ai eus me font penser que, dans un premier temps, je pense que le mouvement associatif de Calais a voulu accompagner. Je pense, pour ne pas perdre la main, pour que les choses se fassent au mieux pour les migrants, pour être toujours là, d'une certaine façon. Et je me demande si ça n'a pas été un piège, c'est-à-dire que effectivement, bon, bah, tout le monde a accompagné ça, et on se retrouve maintenant dans une situation où il y a une croissance qui risque de continuer encore. On est à 3 000 personnes, il y a des chances qu'on arrive à 5 000 bientôt. Et donc, évidemment, les associations de Calaisiens, les familles, les personnes âgées qui sont dans le bénévolat se sentent logiquement un peu débordées. Et donc, il faut passer à une étape supérieure. Et l'étape supérieure, eh ben, je retrouve mes terrains africains, asiatiques ou du Moyen-Orient, c'est-à-dire c'est la forme du camp de réfugiés, c'est la forme camp. Et là, je trouve que dans ce cas-là, oui, on pourra effectivement parler de camp. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense que effectivement, c'est plutôt un bidonville. Je pense que l'intitulé du bidonville d'État est assez correct. C'est une espèce de lieu très précaire créé. Avec le soutien, avec l'accord de l'État qui a dit à des gens, vous pouvez vous mettre là, et qui les a même en réalité incités à venir là. On se retrouve maintenant, en tout cas, on risque de se retrouver bientôt, je ne voudrais pas non plus anticiper, on risque de se retrouver bientôt dans une autre forme. C'est plutôt la forme camp. C'est-à-dire, c'est loin, c'est dans une situation juridique assez bizarre, puisque les gens qui sont là sont considérés en situation irrégulière, mais ils sont tolérés. Donc ça, c'est une forme assez fréquente dans la gestion des indésirables. Y a un régime de voilà un régime d'exception quoi sur le plan juridique, tenu à l'écart. C'est un peu la formule foucauldienne que j'avais déjà utilisée pour parler des camps en général. C'est des enfermés dehors, quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, petit à petit, le lieu est en train de se refermer sur eux. Pas de solution. Visiblement, on va pas vers des solutions de donner l'asile et de régulariser la situation des gens, alors que je pense que ça serait là, on pourra y revenir, la vraie solution. Voilà, on a un enfermement et une mise à l'écart, et puis petit à petit, visiblement, quelque chose où il va être fait appel, où il commence à être fait appel à des organisations plus pérennes, plus durables, plus professionnelles que les associatifs, les bénévoles de Calais, les gens sympathiques, qui avaient de la sympathie pour les migrants, qui établissaient le contact, même si c'était dans des arrangements, des bricolages, etc. Mais où l'aide qui pouvait être apportée était toujours dans le cadre d'une relation avec des gens. Et c'est ça qui est en train d'être brisé, j'ai l'impression.
J'avais envie de rebondir sur deux pistes ou deux questions. D'une part, les gens ne sont pas forcément en situation irrégulière, dans le sens où il y a des demandeurs d'asile, il y a même des réfugiés, il y a des mineurs, il y a des personnes qui ont un titre de séjour d'un autre état de l'espace Schengen, donc qui, pour un court séjour en France, sont en situation régulière, d'une part. Et d'autre part, j'étais tout récemment à Rennes et je suis retourné dans un squat artistique qui existe toujours, mais toute une partie du squat a été bulldozerisée. Il en reste une petite partie qui fait un peu le dernier îlot qui survit au milieu des bulldozers. On a les pancartes de promotion des futurs appartements avec vue sur la rivière qui vont être construits à la place du squat, qui était un squat de un peu de cabane et beaucoup de camions. C'était pas simplement des bâtiments. Et c'est un processus, en fait, depuis 7 ou 8 ans, de pousser les gens vers des lieux où la municipalité les tolère. Donc j'ai l'impression que la gestion des indésirables, elle ne tient pas seulement à leur statut administratif sur le territoire français.
Oui, oui, non, ça c'est tout à fait certain. Je veux dire, la forme du camp, c'est aussi la forme du camp, la forme du refuge et sa ghettoisation, son enfermement dehors. C'est aussi une réponse, si on peut dire, à l'absence d'asile, à l'absence d'hospitalité, à l'absence de véritables structures d'accueil. Alors, moi, ce que j'appelle des véritables structures d'accueil, c'est, à mon sens, une aide beaucoup plus importante qui serait donnée à des associations pour organiser l'accueil, pour avoir des lieux d'accueil, pour développer des places dans lesquelles les gens, provisoirement ou pour quelque temps, peuvent s'établir quand ils sont sur une route migratoire ou sur une volonté de s'installer quelque part ou ailleurs. Enfin bon, toute cette structure d'accueil-là n'existant pas, effectivement, on a cette forme. Donc, je pense que... Alors, il faudrait voir les chiffres, etc. Mais d'après ce qu'on a vu là, hier et ce matin, une bonne partie des gens qui sont là, en particulier les Sud-Soudanais, auraient droit, logiquement, autant que les Érythréens, il y a 15 jours, à être immédiatement régularisé. Pourquoi est-ce qu'on crée ces situations interminables d'attente de titres de séjour pour des gens dont on sait que si on applique les règles de la Convention de Genève, le droit international ou même le droit d'asile tout simplement, ces personnes-là devraient avoir l'asile rapidement. Donc visiblement, ça représente quand même une partie importante des gens. Déjà, légalisons les gens qui sont là. Arrêtons de considérer que ce sont des criminels ou je ne sais quoi, et donnons-leur l'aide nécessaire pour aller trouver de l'accueil quelque part, avoir des conditions pour pouvoir chercher du travail, enfin bon, etc. Ou poursuivre leur route, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, le pire, c'est de bloquer les gens pour les empêcher de circuler. Et c'est comme ça qu'on crée des problèmes qu'on veut après résoudre avec encore plus de camps, de mise à l'écart, etc. Donc je pense qu'une bonne part, c'est ça. Et que, comme tu dis, effectivement, là, une autre partie, ce sont des gens qui sont déjà au moins partiellement en situation régulière. Et là, bon, ben, je pense que c'est encore pire, c'est-à-dire que, enfin, c'est encore pire si on peut dire, c'est-à-dire que c'est des gens qui auraient droit normalement aussi à avoir un accompagnement d'accueil qui serait de l'ordre de l'hospitalité auquel ils ont même légalement droit, quoi.
Alors, tu viens voir, en fait, en tant que chercheur, ce lieu, qui est un peu un lieu qui est donné à voir aussi. Enfin, il est juste au pied de l'autoroute. Les 10 millions de passagers qui sortent ou qui entrent dans le port de Calais ont une vue imprenable sur le bidonville et qui va bientôt être une vue imprenable à travers des grilles pour que des fois que les gens n'aient pas compris. Les associations le font volontiers visiter, même quand il existait encore d'autres lieux. C'était le lieu vers lequel on orientait les journalistes, les chercheurs, les étudiants, etc., les gens qui venaient voir, justement. Quelle est ta manière de te positionner, toi, dans tous ces regards qu'on porte sur ce lieu, Et quel est ton positionnement par rapport à tout le reste? Parce qu'en fait, il y a toute la région, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont ailleurs, même sur le Calaisis. Donc tu viens, tu vas voir le lieu qu'on donne à voir, mais il y a toute la réalité autour.
Oui, alors pour ce qui est de mon regard particulier, je pense effectivement, là je suis juste au début d'une découverte, donc je découvre aussi par exemple qu'il y a une série de campements, qu'en fait ces campements-là qui étaient dans Calais, ces squats, ces campements-là faisaient partie d'un ensemble de lieux. Et j'ai utilisé le terme de réseau de lieux pour d'autres analyses, enfin d'autres situations. Et je pense que ça peut aussi convenir là, c'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de l'écrire, Noranfonte est connue par des migrants qui se trouvent en Italie et qui savent que sur leur route, à un moment donné, il y a Noranfonte comme un lieu possible, autant que la gare de l'Est, etc. Donc il y a des étapes comme ça qui sont connues, qui fait que ça donne un sens aux gens. Ces réseaux de lieux donnent un sens dans ces migrations où je crois que les gens ne savent pas forcément très bien où est-ce qu'ils vont. On exagère souvent, je crois, les stratégies, les diasporas, les réseaux, etc. Et c'est souvent des individus ou des groupes d'individus qui ont besoin de se repérer. Et les différents lieux sont des repères. Donc là, moi, je découvre, par exemple, et je pense que c'est effectivement important qu'il y a. Entre Dunkerque et Calais, peut-être 6 ou 7 campements dans lesquels on a disons, des étapes pour les gens qui sont de passage. Donc ça me semble être un élément important. L'autre question que tu poses, je dirais, elle peut se décliner sous différentes manières. Il y a cette espèce de spectacle qu'on donne à voir. Alors il y a deux aspects dans ce spectacle. Je pense que c'est évidemment. Peut-être le spectacle du désastre, hein, le spectacle de la misère du monde, le spectacle de la catastrophe, qui sont des choses qui se vendent bien dans le monde. Tu sais, au Liban, dans l'après-guerre, des gens faisaient des tours comme ça, et on faisait le tour de Beyrouth et de ses ruines qu'on prenait en photo. Et je pense que là, il y a quelque chose, bon, d'un peu pathétique, quoi, dans le fait d'aller voir de plus près quelque chose qui tient de la représentation du désastre, quoi. Il y a un autre aspect qui est, bon, peut-être un aspect plus compassionnel ou humanitaire. Bon, on peut s'apitoyer sur le sort de gens qui sont effectivement regroupés, quoi, dans ces lieux. Il y a sûrement un côté voyeuriste, un peu zoo-humain, pour aller voir de plus près sans s'en approcher, quelque chose qui fait un peu peur. Et ça, on l'a vu aussi là en y allant ce matin. On voit bien que même dans le monde associatif, maintenant, avec cette forme camp qui est en train de se développer, et que je différencie quand même de ce qu'il y avait avant, et que du coup, je fais la différence avec les campements urbains qui sont une forme différente, c'est-à-dire des installations dans les villes, des gens qui s'établissent quelque part. Là, on a mis des gens, l'administration préfectorale a dit c'est là que vous allez, c'est pas ailleurs. Et donc, ça, c'est. La mise à l'écart, l'enfermement dehors, etc. Et donc là, il y a un aspect qui peut finir par faire peur aux gens, cet aspect massif. Et même les bénévoles qui allaient volontiers aider des groupes de 20, 30, 50 personnes qui établissaient une relation avec elles, et cette relation pouvait même, à un moment donné, se traduire par une forme de solidarité plus politique, par exemple, de défense des droits des étrangers. Là, tout d'un coup, ça se transforme, ça devient quelque chose qui est un petit peu comme les zoos humains, c'est-à-dire, attention, là, il n'y a pas 50 personnes, on en voit 500, il y en a 1000, il y en a 2000, il y en a 3000. Ça va faire peur aux enfants. Les personnes âgées qui travaillent dans les associations ne vont plus y aller parce qu'elles se sentent débordées, etc. Donc cette manifestation de la solidarité, qui est une forme de l'hospitalité, elle va plus pouvoir se. Et je pense que assez rapidement, elle va plus pouvoir se manifester à l'égard des migrants qui passent à Calais et qu'on met systématiquement à l'écart dans ce qui est en train, à mon sens, de devenir un vrai camp.
Tu as aussi travaillé sur la dimension européenne des camps. Est-ce que tu peux en dire quelques mots et peut-être esquisser des parallèles entre ce qui se passe en ce moment à Calais, ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans d'autres pays?
Là, ce qui se passe en ce moment me semble un peu nouveau parce que j'avais effectivement sur l'Europe, j'avais travaillé. J'avais mené une enquête avec Sarah Prestiani donc sur le campement de Patras. On avait mené des enquêtes dans la banlieue de Rome sur des squats principalement de Soudanais, d'Érythréens, qui étaient dans des immeubles qui avaient été abandonnés et qui étaient squattés. On était venu à Calais et on avait mené l'enquête dans le squat qui a été détruit en 2009, et où là, effectivement, c'était toujours à chaque fois des installations par les personnes elles-mêmes d'un lieu qui, petit à petit, devient plus vivable. Et pour moi, ça a toujours été, voilà, et c'est quelque chose que j'aborde régulièrement dans mes ouvrages, dans mes écrits, c'est comment est-ce qu'on transforme des lieux contraints, des lieux a priori inhabitables, en lieux qu'on habite, comment on les rend habitables, comment on les rend vivables, et peut-être à un moment donné, comment est-ce qu'on s'y attache. Et là, il me semble que là, on est dans un autre cas de figure qui jusqu'à présent n'existait pas. Ou alors, on peut faire le rapprochement avec Sangatte, mais je crois que c'est encore différent, parce que Sangatte, c'était la Croix-Rouge qui avait établi un centre d'accueil de la Croix-Rouge pour des gens qui allaient transiter. Donc, c'était pas exactement un empêchement de circuler, c'était sur les circulations. Là, on est effectivement, je pense que exactement comme ça a été dit assez rapidement par tout le monde, c'est une opération d'État. Et pour l'instant, c'est un bidonville. Donc, c'est effectivement un bidonville d'État. Je crois que on cherche le terme. Je crois que pour l'instant, c'est ça le terme exact. Demain, on aura peut-être un camp d'État. Et ça, je m'en inquiète, des organisations humanitaires disent qu'il faut faire un camp humanitaire, un camp de réfugiés. La maire de Calais a elle-même dit ce n'est pas suffisant, il faut faire un camp de réfugiés. Donc, on est dans cette perspective-là. Et là, je le trouve inquiétant, non pas parce que la France devrait être à l'écart du monde et que ça sera une honte pour la France d'avoir des camps de réfugiés. Peut-être que ça le sera. Enfin, peut-être que des gens le vivront comme ça et tant mieux, d'une certaine façon. Mais moi, je pense que ce qui est inquiétant, c'est que là, on aura institué quelque chose, bon, qui se développe depuis le début des années 90 dans le monde, qui est à peu près partout. Des populations sont considérées, pardon, indésirables. Ce ne sont pas les crises des migrations, c'est la crise des États-nations qui produit ces indésirables, et le lieu privilégié pour les indésirables, c'est le camp. Et on est en train de voir, enfin, on verra s'il n'y a pas de sursaut un peu politique ou du monde associatif ou des gens ou des plus politiques aussi en général en France, on verra cette forme camp littéralement, exactement, s'installer en France. Et je pense que on passera à un autre niveau de la signification politique que ça peut avoir. Ce gouvernement, finalement, Sarkozy l'avait un petit peu imaginé en 2011 quand il y avait des passages de migrants tunisiens et où on prévoyait un million, il y en a eu 20 000, bon, et en plus ils ont circulé beaucoup, bon, mais il y avait des tas de chiffres comme ça qui circulaient, notamment par l'Organisation internationale des migrations, qui prévoyait jusqu'à un million de gens qui allaient envahir l'Europe, etc.
On retrouve les mêmes chiffres par rapport à la Libye aujourd'hui.
Oui, c'est ça, voilà. Je pense qu'il y a des chiffres symboliques comme ça. Personne ne sait comment les fonder, mais il y a des chiffres symboliques. Il faut arriver à un million pour impressionner le public. Et là, donc, on avait ces chiffres-là, et je me souviens très bien d'un discours de Sarkozy en mars 2011 qui avait présenté à l'Union européenne une proposition d'établir des camps. Et il donnait une description qui était à peu près l'équivalent de ce que sont les camps de réfugiés du HCR, mais il avait proposé de les établir en Afrique du Nord. Établissons par exemple en Afrique du Nord, pour éviter que les gens traversent la Méditerranée, etc., des camps pour loger ces gens dans des conditions humanitaires correctes, etc., etc. Donc pour l'instant, on est finalement en France dans cette situation où on est en train d'établir ce genre de camp. Pour l'instant, avec en plus, il est vrai, des conditions humanitaires qui sont déplorables, mais je pense que ça va se résoudre, et en trouvant la solution pour que Cazeneuve ou Valls ou Hollande puissent dire nous ne sommes pas critiquables sur le plan humanitaire, on va faire accepter d'une certaine façon ce principe de la mise à l'écart de l'étranger, de le rendre invisible. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est un petit peu ça le but de l'opération, à mon avis.
Mais est-ce que justement, c'est quand ils ne sont pas déjà dans les tuyaux à travers le processus de Rabat et le processus de Khartoum entre l'Union européenne et les États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, et en tout cas du Nord de l'Afrique, actuellement. Et est-ce qu'à contrario, il n'y aurait pas intérêt à maintenir dans les personnes qui réussissent finalement à accéder à l'Europe dans des conditions encore pires pour les dissuader encore plus?
Je sais pas quel est le, je sais pas quel est l'objectif ou la finalité voulue. Je crois que évidemment, du point de vue des pays européens, on n'a pas de doute là pour l'instant. Il y a une hostilité vis-à-vis de la migration, vis-à-vis de la migration des pays du Sud. Hein, c'est pas la migration en général. Vis-à-vis de la migration des pays du Sud où toutes les solutions sont bonnes à prendre. Et je pense qu'effectivement, la forme du camp correspond, est assez compatible avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les politiques européennes. Ça vient assez logiquement, c'est-à-dire ce refus permanent de l'autre, de l'étranger, du migrant, etc., qui peut se traduire par quelque chose que j'ai évoqué là récemment dans quelques interventions en disant ça peut aller jusqu'à laisser mourir, c'est-à-dire les gouvernements nous disent on peut laisser mourir des gens en Méditerranée ou ailleurs. Donc ça déjà je trouve que c'est assez fort comme pas franchi sur le plan politique, sur le plan moral aussi. On est, l'Europe s'éloigne de, et la France s'éloigne radicalement de l'humanisme qui est, paraît-il, au fondement de ses valeurs. Et le camp, l'existence du camp dans cette forme-là, qu'on voit là et que je différencie du campement, du squat et de l'installation, de l'occupation de certaines personnes dans des lieux en ville avec l'aide d'autres, de citadins qui sont là et qui marquent de la solidarité. A contrario, donc le camp qui est le principe de la mise à l'écart, de la non-visibilité et d'un traitement à part de personnes en les maintenant dans une exceptionnalité juridique, une extraterritorialité. Ça, effectivement, je pense que, voilà, comme tu dis, c'est assez compatible avec les politiques européennes aujourd'hui du traitement des migrants.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Soyons vigilants. Soyons vigilants. Je trouve que les mois qui viennent, la période actuelle, elle est importante aussi pour le plan, sur le plan du mouvement associatif, des mouvements politiques. Il se passe quelque chose sur le plan politique qui est assez important en Europe et où finalement la figure de l'étranger concentre un petit peu l'ensemble de ces de ce que nous voudrions faire avec notre monde, notre société dans les années à venir.
Ok, merci beaucoup.
Merci à toi.